Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
L'EHPAD, j'irai pas, je veux pas plutôt mourir avant. Quel est ce pays, le nôtre, où les très vieilles personnes préfèrent mourir plutôt que finir dans ces lieux vite assimilés à des mouroirs, hein, justement. L'enquête sur Orpea, c'est l'avenir sur Korian. Et tout ce qu'on entend depuis si longtemps, de toute façon, sur les structures, même publiques, tout cela a permis de jeter un œil cru sur ces établissements dont on ne veut pas savoir ce qui s'y passe une fois les portes fermées, dont on sait bien ce qui s'y passe, mais est-ce qu'on a vraiment le choix pour nos vieux parents ou grands-parents? Et c'est justement ça, la question qu'on pose ce soir, quelle est l'alternative quand on sait qu'il manquera d'ici à 2030 plus de 100 000 places dans des établissements de ce type, que les 700 000 résidents aujourd'hui en état de dépendance plus ou moins lourde seront 4 millions en 2050. Là, ce sera moi. Est-ce qu'on se projette vraiment dans cette perspective? Ben justement, non. Peut-être que c'est l'une des clés. Est-ce qu'il faut imaginer des structures plus petites, à taille humaine, imaginer des colocations, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 19h? Est-ce qu'on peut vraiment laisser les plus vieux à domicile? Est-ce que c'est viable pour tout le monde? L'EHPAD, j'irai pas, mais comment faire? C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
François le premier, c'est vous. Bonsoir, bienvenue François.
Bonsoir, bonsoir. Donc moi je suis accueillant familial pour personnes âgées, et j'ai 3 agréments donc qui est donné par l'ARS. Et donc en fait, ça fait 22 ans que je fais ça. Et donc on accueille des personnes âgées à notre domicile, où ils peuvent partager avec nous nos loisirs, on les fait participer à la cuisine, au ménage, etc. En fait, comme s'ils étaient chez eux. Voilà.
Et combien ils sont en même temps chez vous en ce moment, par exemple?
Alors, en ce moment, à la maison, j'ai 3 résidents.
D'accord, donc vous avez une grande maison,
voilà, c'est l'idée. Oui, oui, tout à fait. Mais ça peut être un agrément, 2 ou 3 agréments.
Et jusqu'à quel point, François, ça existe? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez des personnes qui sont un peu dépendantes, très dépendantes? À partir de quel moment, vous, l'accueillant, vous pouvez dire « trop lourd pour moi », est-ce que vous le dites parfois? Comment ça se passe?
Alors ça, nous avons un contrat qui est signé avec le conseil général et le résident et moi-même. Et en fait, on peut interrompre ce contrat si jamais la dépendance est beaucoup trop importante. Mais on peut accueillir des personnes du GIR 6 au GIR 1.
Ce qui veut dire, pardon, ça veut dire quoi, GIR 6 à GIR 1?
Alors voilà, d'une faible dépendance juste à une grande dépendance.
D'accord. Et voilà. Jusqu'à présent, vous avez dit que ça fait combien d'années que vous faites ça,
François? Ça fait 22 ans que je fais ça.
22 ans.
Est-ce et que déjà, ma maman faisait ça déjà auparavant.
Eh ben, vous voyez, est-ce que déjà, vous avez, est-ce qu'à chaque fois, en fait, ou combien de fois, je sais pas, vous avez dû un moment vous résoudre, alors en accord avec effectivement l'ARS, les familles, etc., à dire aux gens il va falloir aller maintenant en établissement parce que moi je peux plus? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive rarement?
Non.
Comment ça se passe?
Ça arrive très rarement.
D'accord.
Ça arrive très rarement. Après, il faut dire que je suis à la maison, donc moi je suis le seul soignant, on va dire le seul aidant pour 3 résidents, mais on a toute une équipe autour de nous qui sont les médecins généralistes, qui sont les infirmières et les infirmiers j'ai un trou. Libéraux, voilà.
Ouais. Et on vous a soufflé derrière, on a entendu.
Oui, oui, exactement. C'est mon souffleur. Et voilà. En fait, il y a toute une équipe autour de nous, et c'est ce qui fait qu'on est une réussite, en fait. Et on est réellement reconnu quand une fois que les résidents sont chez nous, ils veulent plus partir.
Ouais, ouais.
Voyez. Et en fait, le problème, c'est que nous, on souffre d'une méconnaissance de notre travail. En fait, peu de personnes ne connaissent notre travail d'accueillants familiaux pour personnes âgées. Donc, et je ne comprends pas pourquoi on ne développe pas ça. Et pourquoi on n'en parle pas? Vous êtes la première. Je lance des messages un peu sur France Inter, sur France 5, etc. Vous êtes la première à me donner la parole ce soir.
Eh ben, on est ravis, François, et vous serez une très jolie entrée en matière pour cette discussion que nous avons ensemble jusqu'à 20h pour discuter autour de ces sujets. Paul-Alexis Racine-Jourdren est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de 7 familles, plateforme spécialisée dans l'accueil familial. Vous avez écrit notamment « Faut-il du courage pour être soi ?» chez Erol, c'était il y a 2 ans, en 2020. Yann Lanier est avec nous. Je prononce pas le S, hein, monsieur Lanier.
C'est
voilà,
ça.
Gagné. Délégué général des Petits Frères des Pauvres. Merci à tous les deux d'être avec nous. Paul-Alexis Racine-Jourdren, j'imagine que vous connaissez par cœur ce que François est en train de nous décrire.
Exactement.
Et j'ai envie de poser la même question que François. Pourquoi on le sait si peu que ça existe?
Alors, il faut savoir que l'accueil familial, c'est la possibilité donc pour une personne âgée ou en situation de handicap d'ailleurs, d'aller vivre chez un accueillant qui va être formé et agréé par son conseil départemental. Et donc, le conseil départemental a un rôle structurant puisqu'il est chef de file de l'action sociale aujourd'hui dans les territoires. Donc, c'est pas forcément l'ARS, donc là, au niveau régional, que ça va se jouer. C'est vraiment au niveau du département. Et il se trouve que les départements ont parfois un manque de volonté, il faut savoir le dire, et parfois un manque de moyens pour développer ce genre de solution. L'accueil familial, c'est un risque que prend le président du conseil départemental parce qu'il va donner un agrément à une personne pour pouvoir accueillir chez lui de une à trois personnes, comme le disait François. Mais si ça se passe
en même temps, je vous interromps, pardon, c'est un risque, ça existe pour les tout petits enfants et c'est un risque pareil. Et pourtant, il y en a plein
absolument.
Pour les tout petits enfants.
Et donc là, on peut se dire, mais finalement, quel est l'intérêt peut-être économique, pécunier, financier ou d'équilibre? Moi, j'ai rencontré une cinquantaine de présidents de département depuis qu'on a créé cette famille, et je vois parfois des positions un petit peu compliquées ou difficiles à comprendre. Par exemple, des départements qui me disent, mais vous savez, donner un agrément, c'est moi me mettre en risque, ou alors, si je développe trop l'accueil familial, mais j'ai pas assez de moyens pour vérifier ce qui s'y passe, ou alors, si je développe l'accueil familial, ça va me prendre des personnes qui pourraient être en EHPAD, et à la fin de l'année, moi, je vais devoir payer les subventions pour les EHPAD qui sont vides. Donc, je crois qu'il faut avoir le courage de regarder la société du vieillissement en face et se dire quel modèle on veut choisir. Voilà.
Est-ce que c'est cher ou pas? Parce que si c'est ça l'une des questions du département, est-ce que, pardon de le dire de manière aussi cynique, mais est-ce que c'est plus cher,
c'est moins cher
d'avoir une personne âgée dans un établissement?
C'est moins cher pour un département, puisque on va dire qu'un reste à charge en EHPAD aujourd'hui, c'est à peu près 2000 euros, tout territoire confondu, là où l'accueil familial, le reste à charge coûtera 1100, 1200 euros. D'ailleurs, je rends hommage à François, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, c'est une vocation, faut féliciter ces gens-là. Et effectivement, ça coûte deux fois moins cher pour la personne qui est accueilli, et ça coûte moins cher pour le département.
Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais pourquoi pas, moi après tout j'ai une grande maison, il n'y a plus personne à l'intérieur, se former, est-ce que c'est long, c'est difficile, comment on fait pour se former à être accueillant, est-ce que ça s'appelle comme ça?
Alors absolument.
À être donc, accueillant c'est... pour personnes âgées.
Tout à fait, donc c'est l'accueil familial, donc c'est un accueillant familial, et pour rentrer dans ce dispositif, il faut s'adresser au service social de son conseil départemental, qui va vous demander de remplir un dossier. Ce dossier, vous allez le remplir, vous avez une ou deux semaines pour le remplir, vous le renvoyez, vous allez avoir une enquête des services sur ce dossier, sur votre capacité à accueillir, et ensuite vous aurez une préformation, c'est-à-dire une formation préalable au premier accueil, et à partir du moment où vous avez accueilli une première personne, vous avez une formation continue qui suit le premier accueil. Ça équivaut à peu près à une cinquantaine d'heures de formation, et ensuite une formation continue, et l'agrément est donné pour 5 ans, et il est renouvelable tous les 5 ans.
Contrôlez tous les combien dans la maison de la personne, par exemple?
Alors, c'est la beauté du modèle français, c'est qu'il y a autant de départements.
Il y a Yann Lanier qui dit ça doit dépendre.
Exactement.
Je vois bien votre tête qui fait comme ça.
Ça dépend des départements. Il y a des départements dans lesquels c'est extrêmement régulier. Vous avez une visite tous les mois, tous les deux mois. Et d'autres départements où ils ont une visite tous les six mois.
Yann Lanier, là-dessus, je vous voyais opiner du chef en écoutant François aussi, en écoutant aussi Paul-Alexis Rachin-Jourdain. Ça veut dire que vous, ce que vous dites, vous, aux petits frères des pauvres, de toute façon, c'est la structure, en fait, qu'il faut réduire, quoi qu'il arrive. Et ça fait partie aussi d'une réduction de structure, c'est le moins qu'on puisse dire, que d'avoir des accueillants familiaux.
Tout à fait, et même au-delà de la structure, la question, ça reste le choix. Choisir les conditions de sa vieillesse. Il faut d'abord différencier deux moments. Il faut différencier le moment de la vieillesse et puis le moment de la dépendance.
Exactement.
Tout le monde, et c'est heureux, tout le monde ne va pas connaître la dépendance et la grande dépendance. Il y a des gens, et encore une fois, tant mieux pour eux, qui sont en pleine forme à 90, 95 ans. Donc, cette vision qu'on a aujourd'hui de la vieillesse avec l'égalité, l'EHPAD et tout ce que ça veut dire, il faut absolument la casser. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a quand même... un personnel politique qui est à 10 000 lieues de la question que vous avez rappelée, Madame Saint-Esse, qui est d'abord la question démographique. Dans les 15 ans à venir, nous allons avoir une révolution démographique, on la compare beaucoup à la transition écologique, mais c'est vraiment comment nous préparons notre pays aux enjeux et comment nous permettons à nous tous, à tous les citoyens, de pouvoir choisir leur mode d'habitat au moment où il le faut.
Mais la vraie question, et vous l'avez souligné, on y viendra tout au long des témoignages, c'est le passage entre la grande vieillesse, où on a besoin effectivement d'être, d'avoir quelqu'un autour de soi, parce qu'on sait jamais, parce qu'on avance un petit peu comme ça, de manière brinque-ballante, parce que on n'est pas sûr de pouvoir faire ses repas, et puis le passage à la dépendance. C'est deux moments très différents. Est-ce que ça peut vraiment se vivre au même endroit, cette bascule-là?
Les accueils familiaux permettent aujourd'hui de pouvoir le faire. Les petites unités de vie permettent également de pouvoir arriver à concilier les deux. Au Petit Frère des Pauvres, nous avons des établissements qui se caractérisent par un nombre de résidents qui est inférieur à 25. Mmh. Vous voyez, alors aujourd'hui, si on est dans une logique de modèle économique d'EHPAD capitalistique comme ceux qui sont sous les feux des projecteurs depuis une quinzaine de jours maintenant, on est dans des choses totalement contre-intuitives ou totalement les petites choses, vous savez, qu'on montre par exemple dans votre reportage lors du journal AGVI aujourd'hui, dont la propriété principale est celle du groupe Korian. Mmh. AGVI, c'est Korian. Donc vous voyez, on est dans des modèles, on a un petit peu le truc cache-sexe là. Mmh. Donc il faut absolument combattre ces choses-là et faire en sorte que nos politiques aujourd'hui s'intéressent vraiment aux enjeux du vieillissement et pas qu'à la gestion de cette crise particulièrement abjecte.
Paul-Alexis Racine-Jourdan et puis on retourne au standard.
Oui, très rapidement, vous avez dit quelque chose qui me paraît essentiel, c'est aussi l'anticipation,
mais
anticiper son lieu de vie. Mmh. C'est très français de pas se projeter, de pas anticiper son vieillissement ou en tout cas sa vieillesse, mais peut-être plutôt et surtout sa perte d'autonomie. Il faut en parler, il faut en parler avec ses enfants, il faut en parler avec ses amis, parce qu'il faut se préparer, et plus tôt vous vous préparez, plus tôt vous pourrez vivre dans le lieu que vous aurez choisi.
Et voilà, ce que ça veut dire, c'est est-ce que je peux refaire la maison, ou est-ce qu'au contraire il va falloir quitter la maison. C'est des décisions qu'il faut prendre quand on est en bonne santé, ce genre de choses.
85% des Français veulent vieillir à domicile.
Marie-Claire est avec nous. Bonsoir Marie-Claire.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Marie-Claire.
Voilà, avec ma fille et moi, donc c'est un projet familial de rénovation d'une maison familiale dont j'ai hérité, celle de ma mère, maison de ma mère, et nous voulons faire un accueil familial. Voilà, nous sommes en train de rénover la maison, c'est un budget conséquent, mais nous le faisons. Nous faisons 8 chambres avec salle de bain privative, accès aux espaces communs, cuisine, salon, salle à manger, un grand jardin, etc. Et une gouvernante qui sera présente 7 heures par semaine pour faire le lien social, préparer le repas, faire les cours. Et puis bon, il n'y aura pas que la gouvernante, parce que ça ne suffira pas. Il nous faut 1,7 équivalent temps plein pour pouvoir faire un accueil familial. Nous avons été sensibilisés, ma fille et moi, à ce sujet depuis déjà 3 ans. Le projet date de 2018 et nous en sommes à la réalisation. Nous pensons ouvrir en juillet 2022. Mmh. Et nous ne voulons pas que des personnes qui sont encore autonomes, qui n'ont pas besoin d'aller dans un EHPAD, soient obligées d'être dans une colonie où il y a un nombre conséquent de personnes. À 8, c'est un accueil familial, c'est le respect des personnes pour un prix qui sera moins élevé que dans un EHPAD. Mmh. Parce qu'on sait que les EHPAD, la moyenne du reste à charge, c'est 1 850 € dans un EHPAD public, c'est 2 450 € dans un EHPAD privé. Mmh. Et nous avons un reste à charge qui sera à peu près 2 500 €. Mmh. Il faut dire que nous sommes dans les Vosges, nous n'avons pas des personnes qui ont des retraites très élevées, et nous voulons considérer les personnes. Bon, nous arriverons bien sûr à rembourser notre prêt, etc. Mais ce qui est important, c'est de faire un accueil différent dans le respect des personnes, pas d'infantilisation, pas d'humiliation. Mmh. Accepter aussi le fait que les personnes sont ralenties par l'âge, donc ne pas les presser.
Et là aussi, Marie-Claire, pardon de vous interrompre, est-ce que jusqu'à quel point vous pourrez accueillir des personnes âgées? C'est-à-dire, est-ce que, y compris quand la grande dépendance arrive, vous imaginez pouvoir les garder? Est-ce que vous avez chez vous la structure nécessaire, c'est-à-dire aussi lit médicalisé, etc., ou possiblement lit médicalisé, pour qu'on puisse rester chez vous?
Non, on ne pourra pas rester chez moi parce que je n'avais pas les moyens. Ce ne sont que des fonds privés,
d'accord,
les miens. Et après, donc nous ne pouvions pas faire que ça comme cela. Mais si vous voulez, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont en EHPAD, alors qu'on sait qu'en EHPAD, on y reste en moyenne 2 ans, juste avant la fin. Et donc toutes ces personnes qui sont encore autonomes, dont vous parliez tout à l'heure justement, elles n'ont pas besoin d'y aller. Elles ont besoin d'un autre cadre de vie. Elles ne sont pas bien. Et de toute façon, quand on groupe des personnes qui sont toutes âgées, ça n'est pas bon. Je veux dire, il y a une chute assez rapide de la vivacité, de l'attention, de la vie, la vouloir vivre. Là, nous avons déjà des demandes parce que des personnes qui ne sont pas dépendantes sont allées en EHPAD parce qu'elles n'avaient pas d'autres solutions. La maison étant trop difficile à supporter, la solitude aussi. Pensons à la solitude parce qu'on parle de laisser les personnes à domicile, certes, mais et la solitude, à qui parle-t-elle dans une semaine, à qui?
Merci beaucoup Marie-Claire, merci pour votre témoignage et bravo aussi pour votre initiative. On vous souhaite vraiment de pouvoir ouvrir comme vous le souhaitez chez vous dans les Vosges, on a bien compris, à partir de l'été 2022. Et encore une fois, il y a deux choses là en fait. Alors elle a raison de souligner ça, Marie-Claire, le maintien à domicile, c'est ce que souhaite effectivement, vous l'avez rappelé tous les deux, une très très large majorité de gens. On oublie parfois que à domicile mais seul, à parler à sa télé, on est peut-être mieux chez Marie-Claire dans les Vosges, en l'occurrence Paul-Alexis Racine-Jordan.
Alors, on est peut-être mieux chez Marie-Claire, et puis plus ça va aller, plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de personnes âgées en perte d'autonomie, et moins il y aura de personnes pour s'occuper d'elles. Donc on va arriver sur des zones qu'on va appeler des zones blanches, où les services d'aide à domicile ne pourront pas intervenir parce qu'elles ne seront pas assez nombreuses. Moi, ce que je vois dans le témoignage de Marie-Claire me remplit d'espoir. Premièrement, moi je milite depuis toujours pour libérer les énergies. Je pense que les solutions viendront de la société civile. Marie-Claire l'incarne extrêmement bien et faut lui rendre hommage. Et il y a beaucoup d'initiatives qui émergent en France dans les territoires, et ça c'est mon deuxième point, c'est l'essentialité du territoire. Plus on va multiplier les solutions d'hébergement dans les territoires, plus on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus on va avoir la décision, le choix. L'autonomie c'est quoi ? Ce n'est rien d'autre que la capacité de choisir. Et donc on va, en multipliant les solutions, multiplier les choix, et ça veut dire que des petites unités comme celle qui vient d'être proposée, on va pouvoir en faire 10 disséminées à quelques kilomètres les unes des autres, ça va remplacer un EHPAD de 80 personnes qu'on mettrait en plein centre, soit d'une grande ville ou d'une zone tendue. Ce qu'il faut, c'est multiplier les petites solutions un peu partout. Mais c'est possible avec des petites unités comme Marie-Claire.
Mais est-ce que vous diriez que ça suffit, Yann Lanier? Parce que j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure. 2030, il faut 100 000 places de plus, soit dit en passant, des embauches aussi autour de 80 000, je crois, c'est 80 000 aides-soignants, etc., et spécialistes qu'il faudrait embaucher au même moment. On parlait de 4 millions de personnes à l'horizon 2050. C'est loin, mais c'est demain. Est-ce que multiplier les petites structures de ce genre-là, ça fonctionne? Ça suffit réellement?
À une condition, c'est qu'on arrive en même temps à massifier l'offre. C'est-à-dire que la demande se massifie, il va falloir massifier l'offre. Et on l'a tous rappelé, la question principale, c'est le choix. Et il faut aujourd'hui une pluralité de solutions qui peut correspondre aux besoins des personnes. Mais peut-être, rappelons un chiffre, sur les 7500 EHPAD, j'arrondis les chiffres, la moitié d'entre eux sont des EHPAD publics aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant.
Le privé, c'est 20% des 700 000 résidents d'EHPAD.
Le privé capitalistique, le privé lucratif. Et les 30% restants, c'est ce qu'on appelle le privé non lucratif. Ce sont des associations, des fondations. Donc, jeter le bébé EHPAD avec l'eau du bain, si je peux me permettre l'expression, n'est certainement pas la bonne solution. Il faut refondre, réformer l'EHPAD. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles qu'il va falloir savoir arrêter. L'EHPAD construit à 10 km d'un cœur de vie qui rend difficile l'accès des familles, qui fait en sorte que les résidents sont de fait prisonniers parce que simplement le foncier était pas cher au moment où on a implanté la structure-là, où on est d'ailleurs confronté à des problèmes aujourd'hui de recrutement de personnel. Donc c'est un modèle complet qu'il faut revoir, et puis surtout il faut en faire des établissements qu'ils soient ouverts sur la ville. Moi j'en ai un petit peu marre parfois d'entendre le énième exemple, parce qu'il en existe très très peu sur le territoire, mais c'est toujours la capacité de montrer ces petits exemples pépites. Vous savez, la crèche qui est ouverte dans un EHPAD, mais c'est ridicule le nombre aujourd'hui. Comment une collectivité territoriale, un département, une ville réfléchit pour faire de son EHPAD aujourd'hui le cœur de la vie ? Comme on le fait avec les crèches, on est capable de les inclure dans le tissu social.
Et c'est ça qui est intéressant. On ne penserait pas à faire une crèche à 10 km de la ville, ou en tout cas, même si alors il y a pu y avoir un certain nombre d'erreurs parce qu'on a cru à un moment que la ville allait grandir, et puis finalement, non, c'est aussi un problème d'aménagement du territoire qu'on retrouve dans d'autres secteurs que les EHPAD, mais c'est quand même intéressant d'imaginer qu'on a construit des EHPAD en dehors de la ville. On ne construirait pas des crèches, on ne construirait pas des écoles, mais on a construit des EHPAD en dehors de la ville. Si on n'arrive pas à tourner ça et de se dire, il faut les aller voir les vieux, en fait. Parce que c'est ça l'idée. Il faut les voir, les vieux. Si on n'arrive pas à tourner ça, on n'y arrivera jamais, en fait.
C'est totalement ça. C'est comment, aujourd'hui, on sort de l'invisibilisation d'une population entière, dont, et je l'espère pour nous trois autour de cette table, en tout cas, nous ferons partie dans quelques années. Il y a un vrai enjeu. Les petits frères des pauvres, au moment de la campagne, dans quelques jours, maintenant, sortiront un document qui va s'appeler « Paroles de vieux électeurs ». Nous avons été chercher des paroles de personnes dans des EHPAD, dans des hôpitaux gériatriques, etc., etc., à domicile, qui écrivent au futur ou à la future président de la République. Et vous verrez, quand sortira ce document, je pense que ces paroles-là, en tout cas je l'espère, ça va durablement marquer les consciences.
Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
On vous écoute.
Le titre de votre émission, c'est « Quelles alternatives à l'EHPAD ?» Alors moi, je
plutôt y a-t-il que... ou alors, mais allez-y.
Ouais. Dans les EHPAD, depuis de nombreuses années, les gens sont de plus en plus dépendants parce que les services à domicile se sont développés. Et donc aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas quelles peuvent être les alternatives à l'EHPAD. Parce que ce qui a été dit des maisons où on met 8 ou 10 personnes, etc., ça c'est pour des gens autonomes. Mais vous voyez, il y a 8 ans, ma maman a passé quelques mois dans un EHPAD, 65 personnes, elle n'était plus que 3 ou 4 à pouvoir jouer un petit peu, parler, etc. Ouais. Et ce que tous les responsables des EHPAD peuvent vous dire, c'est que les gens entrent dans un EHPAD quand ils sont de plus en plus dépendants. Or ça, il n'y a pas d'alternative à ça.
Merci
beaucoup.
Alors
par contre, il y a des alternatives effectivement au domicile et à l'isolement des personnes, mais pour ça, il va aussi falloir consacrer un peu plus d'argent pour mieux former, mieux payer les personnes qui vont s'occuper des personnes dépendantes.
Merci beaucoup Jean-Louis. Il a raison Jean-Louis, Paul-Alexis Rachin-Jourdain, c'est ce qu'on disait au début, des petites structures avec des personnes qui sont encore indépendantes, qui peuvent encore jouer aux cartes, aller faire des courses, etc. Formidable. Quand on arrive à ce stade de la grande dépendance, c'est plus pareil.
Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Parce que je crois qu'il faut ne pas se résigner. L'EHPAD, ça n'est pas une fatalité. Vous savez, moi, quand j'ai lancé cette famille, on m'a dit « Ah oui, d'accord, vous êtes entre le domicile et l'EHPAD. » Donc l'EHPAD était une référence et est toujours aujourd'hui une référence. C'est le lieu absolu où on va finalement terminer sa vie. Je me porte en faux. Je crois sincèrement qu'il y a des solutions qui demandent de l'intelligence collective, qui demandent des moyens de la part de l'État, de la part des collectivités. Il y a par exemple la HAD, l'hospitalisation à domicile, qui se développe de plus en plus. La HAD, ça permet à une personne qui est en perte d'autonomie, qui est multipathologique, de pouvoir accueillir chez elle des services infirmiers, un médecin, qui vont passer de manière régulière. C'est un peu ce qu'on appelle les pas dans les murs. Ça se développe de plus en plus, y compris dans nos colocations ou dans nos accueils familiaux. On a le passage d'infirmiers le matin, d'infirmiers le soir.
Mais ce que dit Jean-Louis, c'est qu'on est même au-delà de ça. Parfois, s'il n'y a pas la famille sur place, infirmier le matin, infirmier le soir, ça suffit pas. Donc c'est comme ça que on est obligé d'être dans la solution EHPAD.
Mais quand vous êtes dans un accueil familial, vous avez l'accueillant qui est là, H24, 7 sur 7. Lorsque vous êtes dans une colocation, un habitat partagé senior, vous avez une personne qui est là, H24, 7 sur 7. Et donc, il faut que cette personne qui est la gouvernante de la maison, l'accueillant familial ou le référent, organise effectivement autour de la personne de la coordination médico-sociale. Mais ça n'est pas une fatalité. Il y a des problématiques, mais les petits frères des pauvres répondent en partie à cette problématique pour les personnes qui, par exemple, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande un taux d'encadrement beaucoup plus important et le coût est plus onéreux. Mais on est devant un champ incroyable de possibilités et il faut se mobiliser, il faut être courageux et l'EHPAD n'est pas une fatalité. On peut faire comme dans les pays du Nord en disant « on arrête ». Les autorisations de place d'EHPAD. Qu'est-ce qui nous en empêche? Il faudrait bien qu'on trouve des solutions.
Alors, dans les pays du Nord, par ailleurs, où tout ça est financé d'autres manières, on est dans des états-providence qui sont de gros états-providence. On lisait cet après-midi, en préparant cette émission, un article sur le Danemark.
Voilà.
Vous savez comment c'est financé? Par la retraite est obligatoire jusqu'à 67, qui commence à 67 ans. Donc, essayons de lancer cette idée en France et puis revenez me voir après, juste pour voir à quoi ça va ressembler. Moi, il y a une chose qui m'inquiète un peu, Yann Lanier, en écoutant tout ça, parce que ces initiatives, elles sont formidables et on voit bien qui peut y trouver sa place. Mais est-ce qu'on risque pas de se retrouver, du coup, dans une situation où il y a ces solutions qui sont formidables et qui sont privilégiées, et du coup l'EHPAD, quand on n'a pas le choix, deviendra le parent pauvre, en quelque sorte, et finalement encore pire que ce que c'est aujourd'hui? Donc est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi par revoir chacun de ces EHPAD-là qui s'ajouteront aux situations plus individuelles?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réinventer les EHPAD. Il y a peut-être des lieux qu'il faudra savoir fermer, parce qu'aujourd'hui, ils ne s'inscrivent plus dans un dispositif d'avenir. Mais au-delà de ça, Jean-Louis a raison quand il disait tout à l'heure qu'il y avait aussi un problème d'attractivité des métiers, de rémunération des personnels, de type de recrutement. Tout ça repart de la visibilité de nos personnes âgées dans nos vies, dans nos villes, etc. Et nous, petits frères des pauvres, ce que l'on dit également, c'est que tout ne se réglera pas avec, et pourtant je suis un fervent militant du taux d'encadrement, je pense que l'une des grosses problématiques que nous avons dans les établissements aujourd'hui, c'est le taux d'encadrement, c'est-à-dire que nous n'avons pas en face des résidents suffisamment de personnel, et vous fabriquez tout un tas de difficultés par rapport à ça. C'est pas que l'EHPAD la difficulté, c'est principalement ce taux d'encadrement, il y en a plein d'autres dans les EHPAD, mais à partir du moment où vous avez suffisamment de personnel en face, le bon nombre de résidents, vous arrivez à créer de la bienveillance, là où quand ça n'est pas le cas, vous créez de la maltraitance. Alors, on met beaucoup de mots savants, éthiques, etc., en parlant de maltraitance institutionnelle, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les EHPAD et qui sont aujourd'hui des gens qui font bien leur job. Et je trouve que là, cette manière de généraliser est vraiment difficile aujourd'hui.
Il y a beaucoup de questions à chaque fois depuis l'histoire d'Orpea qui posent la question de savoir s'il faut supprimer, faire supprimer, démanteler, je ne sais pas quel terme utiliser, les EHPAD lucratifs, privés lucratifs. Est-ce que c'est un faux problème au fond, ou est-ce que oui, c'est l'une des solutions passe par là?
Moi, je vois. On a besoin du privé, c'est évident. Je vais vous donner un exemple. J'en parlais avec l'ancien cabinet du ministère de la Santé. Il me disait, on va mettre 500 millions sur la table. Bon, très bien. Rénover un EHPAD en Outre-mer, ça coûte 5 millions. Pour rénover 100 EHPAD, vous avez vos 500 millions. Voilà, on s'arrête là. Il y a 7000 EHPAD en France. Donc évidemment qu'on a besoin du privé, parce que ça permet de financer. Ça permet de financer de la formation, ça permet de financer du foncier. Mais il faut encadrer cette lucrativité. C'est tout le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est tout le champ des entreprises à mission. Ces EHPAD, ils doivent exister, ces groupes privés doivent exister, mais il faut qu'on encadre dans une certaine mesure leur lucrativité pour ne pas que finalement les dividendes qu'on va donner à des actionnaires, ce soit au détriment des résidents.
Maggie, pardon, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je pense qu'il faut toujours bien expliquer la différence entre le privé lucratif et le privé non lucratif.
Absolument. Et là, on parlait du privé lucratif, effectivement.
Voilà. Le privé lucratif, l'interrogation et l'enquête journalistique, mais il y a eu beaucoup de choses décrites depuis une quinzaine de jours, c'est pourquoi il est né et comment il est né, et comment on a laissé aujourd'hui, parce que vous faisiez référence dans votre introduction, Fabienne Sintès, à la question de la petite enfance. La gémellité est totale entre ce qui s'est passé avec aussi des opérateurs privés dans le champ de la petite enfance et dans le champ des EHPAD, avec une vingtaine d'années de différence, mais il y a beaucoup de similitudes.
Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on serait OK avec l'accompagnement de nos enfants comme celle de nos aînés aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on accepterait aujourd'hui de traiter nos enfants comme on traite nos personnes âgées?
La réponse, on la connaît. C'est non, évidemment non. Mais effectivement, cachez-moi dans ces vieux que je ne saurais voir. Maggie est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Maggie.
Alors, je voulais dire, j'ai 73 ans et je pense à l'avenir. Et je ne vous cache pas que l'idée d'aller en EHPAD, surtout que j'ai de tout petits moyens, je ne pourrais pas aller dans un établissement lucratif, mes enfants sont loin, donc cette idée d'aller en EHPAD me terrifie. J'aurais l'impression de retourner en pension. Dans ma jeunesse, j'ai fait 4 ans d'internat, ça me suffit pour ma vie entière. Je ne voudrais pas y retourner pour un empire. Et je ne vois pas de solution. Et je ne vous cache pas que c'est une question qui me taraude et qui m'empêche souvent de dormir. Voilà.
Je comprends, y compris le terme terrifié d'ailleurs, Maggie, parce que parfois il peut y avoir de quoi. Est-ce que ça veut dire que vous vivez dans une maison ou même si vous allez bien, mais simplement parce que vous commencez à avancer moins vite, vous vivez dans une maison que vous ne pourrez pas habiter de toute façon pendant encore 10 ou 15 ans, ou est-ce que là-dessus au moins vous avez réussi à faire quelques transformations?
Alors, j'ai pu acquérir une maison.
D'accord.
Je j'espère pouvoir y rester le plus longtemps possible. Hein. Le rez-de-chaussée est tout aménagé de façon à ce que je puisse rester dans cette maison. Mais bon, je ne peux pas présager de l'avenir.
Bien sûr.
J'ai vu mon frère aîné mourir peu de temps après son entrée en EHPAD. Il partageait une chambre. Il avait également très peu de moyens. Il partageait une chambre avec un autre pensionnaire qui écoutait la télévision à longueur de journée et à fond, parce qu'il était sourd. Moi, ce genre d'avenir, voyez-vous, j'en veux pas.
Eh ben, je comprends, Maggie, et on peut comprendre ce que dit Maggie Yann Lanier, et c'est quand même terrible de vivre dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, où on a une dame de 73 ans qui dit « ça me terrifie, je suis terrifiée par ça ». Et c'est pas la mort qui terrifie Maggie, c'est cette espèce de moment où, de toute façon, qu'est-ce qu'elle fera d'autre à part attendre ?
Dans le logement, il y a quelques années, on parlait de parcours résidentiel, c'est-à-dire que on parlait de décohabitation parentale, de la première petite chambre d'étudiant, des fois du logement social, et puis de l'accession à la propriété. On a un peu oublié dans la question du logement cette logique de parcours résidentiel. Maintenant, c'est plutôt des cul-de-sac. Et ben, on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire que aujourd'hui, les solutions aujourd'hui ne sont pas suffisamment plurielles, et notamment l'adaptation des domiciles. J'espère ne pas dire d'erreur, mais je pense que le nombre de morts par accident domestique âgés se compte en milliers en France dans une indifférence générale. Et puis, on a parlé de solitude un petit peu tout à l'heure. La solitude et l'isolement, c'est également le glissement vers la perte d'autonomie. Donc, on a un bouquet de solutions à absolument réinventer, mais ça passe forcément par refabriquer une image positive de l'hébergement de type EHPAD, mais parce que toutes les solutions qu'on va pouvoir développer à côté, ce sera des solutions complémentaires, mais je reviens toujours à la masse qui est devant nous de cette transition démographique. Il va vraiment falloir mettre des moyens.
Pardon Maggie, puisque vous êtes encore là, vous êtes dans quelle région ?
Je suis en Franche-Comté.
Vous êtes en Franche-Comté, d'accord.
Dans le Jura.
Parce que là aussi, Paul-Alexis, Rachine Jourdain, merci Maggie, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a, et d'ailleurs j'ai l'impression que la réponse est dans la question, une énorme disparité d'un département à l'autre dans les moyens que l'on met, les structures que l'on met à disposition, etc.
Dans les politiques mêmes qui sont menées par ces chefs de file de l'action sociale, que sont les conseils départementaux, vous avez, je vois très bien, on a 10 000 places un peu partout en France, les départements les mieux dotés sont principalement les départements du Nord qui ont mené des politiques sociales avant-gardistes. Et puis vous avez des départements où on va trouver 10-15 accueillants pour quelques millions de personnes et des départements où on va avoir 600 places pour quelques centaines de milliers de personnes. Il y a un déséquilibre qui est même anormal parce que ça pose la question de l'égalité du citoyen face à ces solutions. Et c'est pas normal qu'en franchissant une frontière purement administrative d'un département, vous soyez moins bien doté. C'est un vrai sujet.
Pascal est avec nous. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc moi je suis infirmière depuis 20 ans et donc j'ai travaillé pendant 4 ans en EHPAD en finissant mes journées de 12 heures insatisfaite du travail que j'avais pu faire. Et là, j'ai vraiment à cœur de proposer une autre façon pour moi de travailler, me proposer ça, d'être dans une création de projet pour créer un petit habitat groupé, donc avec la construction de deux logements qui seraient jumelés, un logement familial et un logement qui pourrait accueillir des personnes âgées entre 2 et 4, avec la réflexion que ce logement soit accessible aux personnes âgées en situation de handicap ou en fauteuil. Voilà. Et donc, je suis en grosse création de projet pour que les personnes puissent garder leur autonomie le plus longtemps possible, que je puisse être présente auprès d'eux en les accompagnant au quotidien et pouvoir les accompagner jusqu'au bout de leur chemin, puisque en étant infirmière, j'ai beaucoup accompagné de personnes en fin de vie. Et pour moi, mon rêve, c'est de pouvoir les accompagner dans un lieu chaleureux, où on lie l'intergénérationnel, puisque ma vie de famille sera liée aux personnes qui vivront avec nous juste à côté.
Vous n'êtes pas dans le Jura par hasard, ça pourrait intéresser Maggie?
Eh ben non, je pensais à Maggie justement. Ce projet se fera en Ardèche.
C'est bien aussi, l'Ardèche, Pascal. À quel moment il est prêt, votre projet? Est-ce que ça a été, est-ce que c'est facile à monter? Quand vous arrivez, que vous demandez des aides, j'imagine, et que vous dites voilà mon projet, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut vraiment appuyer sur les avirons, ou est-ce qu'au contraire on vous écoute en vous disant bravo, merci?
Alors c'est un projet qui intéresse énormément.
D'accord.
Alors là, je suis au début de la construction du projet, c'est-à-dire que là, j'ai posé le permis de construire qui a été accepté, donc le maire me soutient. Ensuite, je vais faire appel à des subventions, donc je vais créer une association pour pouvoir avoir des aides financières. Mais aussi, je lance le prêt solidaire. Donc c'est j'appelle auprès de mes amis, de mes connaissances, à ce qu'ils puissent me soutenir financièrement et croire au projet aussi, en étant en force de solidarité de ce côté-là. En sachant que ce sera des prêts qui se rembourseront aussi comme un prêt bancaire classique, avec le possible de peut-être accueillir leurs proches ou d'avoir des intérêts de venir sur le terrain. Ou, voilà,
merci.
Puisse m'en sortir aussi et que le projet puisse émerger.
Et merci vraiment pour le joli projet, Pascal, et bon courage, parce qu'on voit bien que vous êtes au début, et en même temps, en écoutant Pascal, Paul-Alexis Rachin-Zourdren ou même Yann Lanier, je vous poserai la même question. On disait tout à l'heure, les solutions viendront de la société civile. On a Pascal là qui engage des prêts, qui fait appel à ses amis, à la solidarité, et j'ai à la fois envie de dire c'est formidable. Et en même temps, je me demande s'il ne faut pas s'en désoler aussi, en fait, de se dire qu'il faut compter là-dessus pour que ça marche.
Je trouve ça plutôt intéressant que des citoyens se mobilisent. La question, c'est comment les pouvoirs publics les aident.
C'est ça.
Aujourd'hui,
Pas que Pascal ou d'autres prennent un bouillon financier en ayant ce genre d'initiative. C'est
du maintien à domicile jusqu'à la grande dépendance. En écoutant vos auditeurs, je pense que si des personnes qui pensent se présenter au suffrage de leurs concitoyens sont à la présidentielle qu'aux législatives, il y a tout un tas de mesures assez simples et qui sont pas forcément budgétivores, qui peuvent être gérés. Et l'une des choses importantes, en tout cas aux petits frères des pauvres, j'en profite pour saluer les 15 000 bénévoles des petits frères des pauvres, nous croyons aussi beaucoup à la mobilisation des citoyens. C'est-à-dire au fait que ça n'est pas que par des postes que nous allons régler ces questions-là, mais bien par une mobilisation citoyenne beaucoup plus globale. Donc il faut les aider à pas prendre de bouillon, mais c'est bien que les gens se mobilisent.
On a à peine le temps, mais je voulais quand même qu'on vous entende, Marie-Lise, je voulais pas que vous soyez toute seule dernière au standard. Bonsoir à vous et soyez la bienvenue.
Bonsoir, excusez-moi, je suis une fidèle auditrice et effectivement je vous remercie pour la pertinence de vos émissions et leur qualité. J'avoue que sur celle-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de, et le mot a été prononcé, de rêves. Mmh. Il y a beaucoup de sociétés civiles et de projets qui, dans la ruralité dans laquelle je me trouve, sont absolument hors contexte. Je crois que tous les accueils familiaux, les colloques entre seniors, les étudiants qui vont avec les urbains, effectivement, ce qu'on peut voir dans les médias, le journal de France 2, etc., c'est possible, peut-être. Et j'en suis convaincue, et je suis moi-même très favorable à tout ce qui peut être société civile, mais c'est possible, il me semble, sur les villes.
Merci.
Moi, je suis en ruralité totale, et avec, c'est peut-être un peu hors sujet, une époux Alzheimer dont je suis dente naturelle, et nous n'avons même pas un accueil de jour, c'est-à-dire un endroit public géré par l'État et les pouvoirs publics où l'on puisse donner du soin à nos personnes âgées, où l'on puisse les stimuler et où on puisse accorder du repos à des aidants comme moi-même.
Marie-Lise, pardon de vous interrompre, mais l'heure tourne déjà, mais je voulais vraiment qu'on vous entende, et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier ça, Paul-Alexis Rachin-Zourdren, c'est pas facile pour tout le monde, et il ne faut pas non plus qu'on soit au pays des bisounours disant que c'est formidable, qu'on va tous avoir une vieillesse super heureuse.
Mais je tiens à rassurer votre auditrice et tous les auditeurs, chez cette famille, on est présent partout en France, dans la ruralité, des villes de 0 à 15 000 habitants. Donc qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, on sera là pour leur répondre.
Eh bien écoutez, on espère, Marie-Lise, que peut-être vous trouverez quelque chose près de chez vous. Merci vraiment à tous pour vos très nombreux appels. Merci de votre présence. À très vite.